C'est vrai. Mais il me semble avoir fait en deux phrases déjà. Non? Bon, on va y revenir bientôt. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Je crois quand même, vous savez qu'il est interdit d'être parfait. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe de la musique. C'est interdit. Hein? Parce que, par conséquent, on a quand même terminé tout, hein, la lecture. Je crois que ça suffit pour que vous alliez jusqu'à vous tout seul. Il nous manque 20 minutes. Bon. Sinon, on aurait violé l'interdit, on aurait été, Dieu préserve, parfait dans la lecture, c'est pas possible. On m'a posé déjà deux ou trois questions que je vais indiquer, mais je demanderai d'ailleurs à ceux qui les ont posées de les reformuler. La première question pose sur les deux opinions de la Gemara au sujet du Machia Ben Yosef qui risque d'être tué. Les deux opinions de la Gemara au sujet de la définition de ce deuil dont on parle dans notre verset. La thèse que le Rav a suivi, c'est la thèse selon laquelle ça doit être attaché au fait que le Machia Ben Yosef risque d'être tué ou doit être tué. La deuxième thèse étant qu'il s'agit de la disparition du Yetzer Hara. C'était la première question, qu'est-ce que ça veut dire cette deuxième dimension? D'autre part, on m'a posé une question sur l'importance de Ruth en tant que telle dans les engendrements du Messie. C'est cela. Et puis quelqu'un d'autre m'a encore demandé une petite précision. Ah oui, c'est quoi? Ah oui, très bien. Mais dis la question toi-même.
Dans la liturgie juive, on commémore énormément
Très bien. D'ailleurs, je veux dire que là, je vais commencer par cette question assez rapidement. J'y ai un peu réfléchi depuis que tu me l'as posée tout à l'heure. En fait, la date précise, exacte, dans le calendrier, nous la connaissons, c'est toujours dans le même livre. Je ne l'ai pas en mémoire, mais elle est là-dedans. Okay? Ça montre très exactement quand Josué a envoyé les explorateurs, les deux explorateurs à Jéricho, chez Rachav, quand ensuite l'armée israélienne. L'armée d'Israël est entrée dans le pays, a commencé à entrer dans le pays avec Josué. Toutes ces dates sont effectivement, depuis le premier homme jusqu'au temps des Tanaïm et Amoraïm, se trouvent dans ce livre qui s'appelle Seder Adorot, okay, si ça vous intéresse de l'étudier. Mais tu as raison que l'événement comme tel n'est pas du tout considéré comme date de commémoration. Bien, je crois que la réponse que je proposerai, j'en suis pas du tout assuré, serait de le comprendre par rapport à une autre question sur le même sujet. Comment se fait-il que la date qui apparemment devrait être la plus importante dans les commémorations, puisqu'elle est le commencement de tous les commencements de l'histoire d'Israël, la sortie de Ur Kasdim d'Abraham et son arrivée dans le pays de Canaan, qu'une trace dans la liturgie des commémorations? Et je vais vous proposer deux réponses sur cette question sur Abraham. Peut-être nous pouvons utiliser en partie une des deux pour la question sur Josué. C'est que l'événement de la sortie d'Ur Kasdim d'Abraham est irréversible. Il a complètement réussi. Lorsqu'un événement a complètement réussi, a complètement été intégré, on ne le commémore plus. Ce qu'on commémore, c'est un événement qui a eu lieu, qui est important, mais qui est à achever. Si vous voulez, qui a mené dans la réactualisation permanente jusqu'à son aboutissement messianique. Donc s'il s'agit d'un événement qui est complètement fait, c'est fini. Alors il n'y a plus place pour commémoration. Est-ce que c'est clair l'explication? Et la deuxième explication pour la sortie d'Abraham de Ur Kasdim ne peut pas aller pour la question sur Josué, mais je vous la cite quand même, puisqu'on a parlé de ce problème. C'est que la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim, qui est le fait d'avoir vécu à l'échelle individuelle tout ce que va être l'histoire d'Israël, c'est-à-dire quitter l'identité dans l'ère de l'exil, a assuré, réalisé cette mutation du juif de l'exil devenant l'hébreu, et au temps d'Abraham, c'était l'identité juive de l'exil, c'était l'identité araméenne. Abraham est au niveau de l'identité araméenne. Abraham, c'est au niveau de l'identité hébraïque dévoilée. Est-ce que c'est suffisamment clair pour tout le monde? Oui. Puisque l'expression de la Bible qui identifie Abraham comme hébreu, c'est Abraham ha-ivri. Le mot où Abraham est encore principe de Aram, Able Aram. Mais on sait qu'il est hébreu. J'explique très rapidement pour ceux qui n'ont pas étudié ce problème. Je pense que c'est je dis un peu schématiquement, mais vous nuancerez. Je pense que il faut dénoncer comme une légende ce cliché selon lequel Abraham était un homme d'Ur Kasdim qui va devenir hébreu magiquement en arrivant en Eretz Kanaan. Okay? Abraham descendait d'une lignée d'hébreux en exil, en dispersion dans la civilisation des Chaldéens. Les Kasdéens, si vous voulez, c'est à peu près le même niveau, à Ur Kasdim. Et cette lignée des Hébreux qui descend de Haéver à partir de Shem, le nom d'identification, c'est un ancêtre d'Abraham qui s'appelle Haéver, qui donne son nom de Hébreu. Et il y avait, à partir de ce Haéver, énormément de lignées d'Hébreux. Elles se sont toutes perdues. Une famille avait conservé, dans la gangue araméenne qui est l'Hébreu de l'exil, l'identité hébraïque en potentiel. C'est cette famille-là qui décroche de l'exil d'Ur Kasdim. Et dans cette famille-là, il y avait deux dimensions, ça je le cite parce qu'on reprendra pour Ruth, deux dimensions possibles, l'identité de Lot et l'identité d'Abraham. C'est l'identité d'Abraham qui réussit, l'identité de Lot échoue. Mais au début, elles ont des chemins très parallèles. Et peut-être qu'intentionnellement, la Torah nous a raconté cela. C'est que le cheminement d'Abraham, dès le début, est accompagné d'une approximation d'identité qui s'appelle Lot et qui fait caricature échec. Et la Gemara explique ces deux noms, Abraham, Abraham, de la manière suivante. C'est le même homme, mais il était d'abord principe de l'identité de Aram, Ab le Aram. Et ensuite, son identité hébraïque se dévoile, elle passe à l'échelle dévoilée et donc universelle, il devient Av le Chol Olam Kulo, principe d'identité pour tout le monde, la dimension du passage à l'universel de l'identité hébraïque dévoilée, il devient l'hébreu. Il était hébreu, mais il était hébreu clandestin dans l'identité juive de ce temps qui était l'identité araméenne. C'est clair les qualifications. Okay? Et le peuple d'Israël a gardé, une tendresse particulière pour l'araméen qui était l'identité Israël de l'exil du temps d'Abraham. De la même manière qu'on gardera dans les siècles à venir une tendresse particulière pour le Yiddish, pour le judéo arabe, le ladino, c'est les araméens de notre temps. Vous comprenez le problème. Et c'est Abraham vit en préfiguration la sortie d'Égypte. Quand il sort d'Ur Kasdim, c'est à l'échelle individuelle ce qui va se passer pour le peuple d'Israël en tant que peuple au moment de la sortie d'Égypte. La sortie de la clandestinité de l'hébreu chez l'égyptien dans la civilisation de ce temps, dont la Torah ne nous dit rien, sinon le dernier verset du livre de Bereshit, de la Genèse, ils se marièrent, ils ont eu beaucoup d'enfants, et puis un trou de 400 ans, et le récit reprend la sortie d'Égypte. La grande différence, c'est que la Torah, et donc les commémorations liturgiques qui s'y réfèrent, concernent la nation. Et vous n'aurez aucune trace de commémoration de ce qui est arrivé à l'individu fut-il exemplaire. Et sans doute, et particulièrement Abraham. Parce que Abraham, c'est à l'échelle d'une personne toute l'histoire d'Israël dans son commencement. Mais faire la religion du Dieu d'Abraham, c'est finalement risquer de créer un mythe vrai, puisque l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'Israël. Mais une relation mythique, c'est-à-dire, je vais croire à ce qu'a été l'histoire d'Abraham, c'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est moi, Abraham. Est-ce que vous comprenez la différence? Et par conséquent, vous ne trouverez aucune référence liturgique à ce qui arrive à l'individu. C'est toujours à ce qui arrive à la collectivité. Ça évacue le mythe. Un mythe de la religion d'Abraham aurait été possible. Et ça aurait été la vraie religion, puisque c'est la nôtre. Mais, vous voyez la différence. Se référer à l'histoire exemplaire d'un individu, ça, c'est le mythe. Mais il s'agit de vivre l'histoire de la collectivité dont le modèle est au niveau de l'identité et non pas d'un phénomène d'objet de croyance. Je ne crois pas à l'histoire d'Abraham, je vis l'histoire d'Abraham. Vous reconnaissez vos analyses de l'autre soir.
Il y a la même chose aussi dans ma cabine.
Expliquez votre question. Dites plus fort.
Et non plus, on ne commémore pas. On commémore toutes autres choses.
On commémore Hanouka, bravo. Ah oui, mais je vous donnerai surtout l'exemple de Moïse. La liturgie juive a évacué a priori tout ce qui pourrait concerner une commémoration de quoi que ce soit dans la vie de Moïse. Parce que ça aurait été trop exemplaire. Et ça va jusqu'à l'ingratitude apparente que l'on ne fait pas allusion à Moïse le soir du Seder de Pessah. Parce que si on, dans la Haggadah, parce que si on faisait allusion à Moïse dans l'histoire du Seder de, dans le Seder de Pessah, on risquerait de croire que c'est grâce à Moïse qu'on est sorti d'Égypte. Regardez l'humour juif. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais tu ne vas pas croire à ça. C'est Dieu qui nous a fait sortir. Oui, le problème. Parce que tu risques de faire de Moïse une idole. Alors, ça risque d'aller jusqu'à la gratitude. Okay. Vous avez compris. Apparente, bien sûr.
Est-ce que cela ne permet pas d'accorder plus d'importance au fondement du fondateur ? Parce que tous les gens qui mettent en avant Bouddha, Jésus et d'autres.
Absolument.
Le fondateur, mais jamais au fondement.
Vous savez, je crois qu'avoir fait une fois une étude, la différence entre le mythe et le midrash. Je vous rappelle très brièvement. La méthode du mythe, c'est de récapituler sur un individu exemplaire l'histoire d'une collectivité. C'est ça le mythe. Et une figure apparaît qui se substitue à la collectivité. Donc tout notre problème, messianité juive, messianité chrétienne, il y en a un des deux de trop. Ou le peuple juif, ou leur messie. Parce que c'est la même fonction, la même histoire, racontée sous forme mythique dans les évangiles, et vécue dans l'histoire par les juifs. Vous comprenez le problème? Je schématise là quelque chose qui pourrait être développé en beaucoup de problèmes, mais j'ai réussi. Attendez, je voudrais finir sur ce point-là, de quoi je parlais, de l'exemple de Moïse, où il faut évacuer le risque de la mythification, et effectivement, ça se recode avec notre analyse de l'autre soir. J'espère que c'est suffisamment clair. Voilà ce que je vais ajouter, parce que c'est un peu sibyllin. Ah oui, mythe et midrash. La méthode du mythe, c'est de récapituler sur une figure individuelle devenant par la mythique ce qui concerne une collectivité. Et vous voyez comment cette figure va se substituer au peuple d'Israël. Ce que je veux dire, je n'ai même pas fait allusion dans cette analyse, c'est que tout le récit de la Passion décrypté en catégorie hébraïque, et je vous rappelle, ce n'est pas du tout polémique, qu'il n'y a qu'une conscience juive maîtrisant les catégories du Midrash qui peut décoder les évangiles. Est-ce que c'est clair? C'est un livre qui a été écrit par des juifs qui voulaient laisser un message codé, voilà ce que nous voulons faire. Et rendez-vous à la fin des temps. La fin des temps, on y est. Okay, c'est pour ça que c'est maintenant qu'on s'explique. Et ce décodage montre que toute l'histoire qui est racontée sur le personnage principal du récit de la Passion, c'est l'histoire d'Israël formulée au niveau d'une figure mythique, et qu'on a proposée comme histoire exemplaire salvatrice à communier pour sauver ceux qui ne peuvent pas être Israël, c'est-à-dire les non-juifs se prétendant Israël. Vous voyez à peu près le problème. Alors que, corollairement, le peuple juif est censé vivre cette histoire-là. Le chrétien y croit. Vous voyez que nous sommes sur des registres théologiques radicalement différents. Et simplement, pour donner une image, si vous voulez, le monde entier, dans cette histoire, a essayé de nous la faire vivre. On nous a mis en croix, en attendant qu'on ressuscite. Et je pense qu'en particulier le monde chrétien nous a fait vivre cette histoire. Alors voilà, on a déjà ressuscité, et puis on ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire que c'est déjà la Pâque, en langage chrétien. Okay, la résurrection a eu lieu. Mais on parle comme si on était encore sur la croix. Et vous avez un peu recodé le problème. Et il y a un verset d'ailleurs cité par les évangiles, même je ne sais plus dans quel chapitre, vous allez nous aider. Et on cite un verset des prophètes. « Il me ressuscitera après le deuxième jour. » Et comme vous savez qu'un jour c'est 1000 ans, eh bien ça a duré 2000 ans, on est dans le troisième jour, c'est tout. Mais vous voyez juste tout à fait. Stop. Juste, t'as compris.
Dans l'évangile, c'est mes relations avec
Dieu. Oui, mais c'est ce verset qui est cité. Oui.
Le Midrash, on est tout à l'heure.
Ah, le Midrash, c'est la même chose, sauf que ça n'a rien à voir, puis c'est dans l'envers. La méthode du Midrash, c'est d'étendre à la collectivité les indices d'exemplarité qui apparaissent dans l'individu exemplaire. Et je vais vous donner des exemples. Vous comprenez? Par exemple, on nous dit que lorsque Sarah était stérile, toutes les femmes étaient stériles. Et lorsque Sarah a enfanté, toutes les femmes ont enfanté. C'est le passage à l'échelle universelle collective des indices, encore une fois, d'engendrement de l'identité messianique, le fait de l'étendre à la nation en tant que telle. Et l'individu qui a été porteur de cette annonciation, on le met entre parenthèses, parce que sinon on risque l'idolâtrie. Vous avez compris ? On s'y relie avec respect, pas avec adoration. Oui, il faudrait changer complètement de vocabulaire. Alors, l'important, c'est pas le miracle que Sarah ait eu un enfant. Ça, on pourrait faire une mythologie de type christologique énorme. Okay, c'est plus énorme que l'Immaculée Conception. Okay. Et le Ramban, Nahmani, Dieu ne s'en occupe pas. La Bible n'est pas là pour nous raconter des miracles. Quand c'est nécessaire pour comprendre un événement historique, elle nous dit comment c'est arrivé. On ne se fixe pas là-dessus. Okay. L'important, c'est que l'enfant est né. C'est pas le mystère dans lequel il est né. Pas de toute façon, chaque fois qu'un enfant est né, un mystère. Okay. Dans tous les cas. Oui, c'est une différence de mentalité radicale, quand je disais peut-être de façon un peu trop récapitulée, qu'il y a eu projection d'une mentalité païenne sur un récit hébraïque. Et lorsque l'hébreu lit le résultat de cette projection, il ne peut pas lire autre chose qu'un mythe païen qui est censé raconter l'histoire d'Israël, d'Israël comme nation. Mais regardez comme les choses historiques concrètes apparaissent. Finalement, notre grand débat, c'est qu'il y en a un des deux de trop. Je pense que c'est clair. Je pense qu'il arrivera un jour où les chrétiens prendront conscience de cela. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, ils ont adoré l'histoire d'Israël en effigie. Il y aura une épuration de la conscience, on pourra se reconnaître à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que seul un homme du Midrash peut comprendre ce que l'homme du mythe veut dire. Mais il sait que c'est du mythe. Est-ce que c'est clair ? Et nous sommes dans un moment assez vulnérable où les hommes du mythe tentent de s'emparer des explications du Midrash pour renforcer le mythe. Je n'ai pas cité le père Dupuis. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je voulais te demander s'il y avait pas, tu dis qu'ils ont adoré l'histoire de la Bénédiction. Je me demande s'il n'y a pas moyen de voir cette question-là en ne considérant pas les chrétiens comme un peu. On me demande s'il n'y a pas quelque chose derrière qui fait que, par exemple, prendre une formulation possible, il y a un homme derrière qui utilise quelque chose de cette image pour dominer les chrétiens et donc.
Oui.
Et ce que Rome fait à Jésus, ce que Rome a fait aux Juifs, c'est la même chose que ce que Rome fait à Jésus. Jésus étant effectivement la façon dont il traite le Juif. Et l'accusation de déicide qu'ils ont sans arrêt perpétuée peut très bien se comprendre dans une perspective clinique comme bien sûr, c'est eux qui sont coupables. Et c'est très étonnant dans toute cette fameuse histoire de Jésus quand on se demande toujours pourquoi vous accusez les Juifs d'eux alors que ça s'est passé il y a 2000 ans. Et personne ne se pose la question de pourquoi on ne dit rien à Rome. Et oui. Pourquoi le Vatican est à Rome. Pourquoi la religion de Jésus a adopté le lieu et la langue des Romains qui ont une participation quand même. Et puis à travers tout ça, quand on regarde toute l'histoire, ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas que les Juifs, quand tu parlais des 10 tribus tout à l'heure, il y a les Indiens, il y a les Noirs, il y a les Bon. Moi je me suis, tu le sais très bien, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas là quelque chose à lire dans leur discours qu'on pouvait traduire comme le nôtre. Et derrière tout ça, tout ce qui a massacré le monde, tout cet Occident qu'on appelle chrétien, c'est pas chrétien, c'est Rome.
Oui, mais voilà, tout ça est prêt. Oui.
Si on retrouvait Jésus comme juif, martyrisé, massacré par Rome, peut-être qu'on retrouverait les chrétiens qui sont, eux, en état de domination, d'écrasement, etc., par cette hiérarchie.
Oui, c'est très clair. D'ailleurs, et tout ça est plein d'indications et de sujets, trop. Je vais me voler, isoler peut-être un élément. Un certain nombre de questions se référant à ton analyse ont été déjà posées pendant la semaine, d'ailleurs, ça et là. Et je crois, puisque c'est toi qui as parlé, que ce que j'ai dit, épuration de conscience, peut prendre des catharsis différentes, et en particulier celle-là. C'est-à-dire une psychanalyse de découverte de la culpabilité aussi. Tout ça fait partie du problème. Mais, je veux dire, il y a deux temps, deux époques. Il y a les fondateurs du christianisme, et quel était leur projet. Et très vite, c'est tombé dans l'oubli. J'ai recherché, pendant tout le temps que j'ai étudié ces problèmes, où pouvaient se trouver les communautés chrétiennes ésotériques. Je ne les ai jamais trouvées. Je crois que très rapidement, ce complot lui-même, qui consistait à essayer de judaïser Rome à la manière Joseph du dedans, c'était le complot des fondateurs du christianisme, que les rabbins ont refusé. Et ce complot lui-même a été oublié, que c'était un complot comme ça. Et ensuite, les successeurs, les héritiers, les descendants de la problématique chrétienne, et là je te rejoins, à ce niveau-là, utilisant ce mythe pour tel ou tel projet de domination de pouvoir.
Oui.
Et d'autre part, l'identification Rome et l'Église fait problème, devrait être analysée, mais pour la tradition juive, elle est très claire. Et dans les deux étapes, premièrement la Rome païenne, deuxièmement la Rome chrétienne. Peut-être qu'aujourd'hui, de notre temps, en tout cas probablement depuis le temps de l'émancipation des sociétés européennes, on pourrait utiliser au moins cette médiation-là. Et il s'agirait de la civilisation de droit romain. Toutes les sociétés qui ont le principe du droit romain, c'est ça Rome. Mais ce que je veux ajouter est très simple, c'est que nous avons essayé de mettre en évidence pourquoi ce mythe-là a été si agissant, efficace. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui travaille? C'était un peu la question que j'ai voulu poser mercredi soir. Vous vous rappelez? C'est ça au fond de l'étude. C'est-à-dire parce que il n'y a pas de doute, ce mythe est encore vivant. Le christianisme, ça existe encore. Et qu'est-ce qui travaille là-dedans? J'ai ajouté une phrase, et je reprendrai peut-être ce sujet lundi soir dans le thème Israël-Diaspora. Je crois, et là je vous parle en tant qu'israélien dans cette phrase, non payé par l'agent juif d'ailleurs, c'est ce qui risque de guetter. La tentation qui risque de guetter une diaspora juive coupée de la nation d'Israël. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé il y a 2000 ans, grosso modo et schématiquement, lorsque le christianisme s'est fondé? Eh bien, il s'agissait d'une religion d'Israël coupée de l'histoire concrète positive de la nation d'Israël. Or, à la limite, si la diaspora juive, quels que soient les chemins d'aventure qu'elle se cherche, cosmopolitisme ou autre chose, n'arrive pas à régulariser son identité de diaspora d'Israël, elle risque d'être sur le chemin d'un éventuel christianisme avec ou sans Christ, un autre problème, il y aura un autre mythe. Du même type, c'est-à-dire religion d'Israël, même si le niveau du vocabulaire religieux n'est plus qu'alibi parce que le monde moderne n'est plus théologique, mais vous savez très bien que tous les juifs cosmopolites, finalement, se servent de cet alibi, la synagogue de diaspora, okay, l'alibi. Et une culture d'origine d'Israël, mais coupée de l'histoire de la nation d'Israël. Je pense que c'est quelque chose d'analogue qui s'était produit il y a 2000 ans sous forme de stratégie, de complot contre Rome, et que les fondateurs du christianisme ont eux-mêmes oublié de quel complot il s'agissait. Vous voyez à peu près le problème. Là, il y a une clause, je pose la question d'ailleurs, parce que beaucoup me la posent et j'ai moi-même cherché. Est-ce que, quelque part, une église chrétienne à garder sa mémoire des commencements, à garder sa mémoire ésotérique. Si vous avez une indication, indiquez-la moi, mais j'ai longtemps pensé que c'est peut-être resté un peu chez les orthodoxes, ni les catholiques, ni les protestants, mais même là-bas, il n'y a plus rien. On a oublié les commencements. Et alors ça fonctionne, comme tu dis.
On peut retrouver, je pense, des morceaux de ces choses-là. Comme quand tu disais tout à l'heure, Rome, c'est là où il y a le droit romain. Moi, je dirais, c'est comme qui veut, par exemple, Rome, c'est là où il y a l'aigle. Or, l'aigle, il est à la Maison Blanche, il était dans les légions romaines, il était
aussi,
dans les étendards de Hitler, il était
aussi, l'aigle. Aussi, c'est toute la civilisation occidentale, bien sûr. Mais, une minute. Ma question a été, comment se fait-il que cette aventure s'habille de l'identité Israël? Qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? Pourquoi c'est ça qui a été pris? Vous comprenez? Et j'ai essayé de mettre en évidence qu'il s'agissait de l'hypertrophie de la dimension Joseph lorsque elle tombe dans l'impasse dans laquelle Joseph, des patriarches, n'était pas tombé. Lorsque Joseph s'est senti pris dans les mains de la femme de Potiphar, il lui a laissé le déguisement, il s'est enfui. Okay? Tandis que le Joseph, des fondateurs du christianisme, est devenu romain. C'est ça le problème. Mais alors, ceci dit, et derrière cette forme, dans cette forme, qu'est-ce qui travaille dans ce mythe? Eh bien, il n'y a pas de doute, c'est une tentative de messianité de Joseph. J'ai essayé de vous l'indiquer très, très précisément, mais d'un Joseph dévoyé, d'un Joseph qui s'est fait avoir par son propre rêve. Et j'étais extrêmement frappé de cela, que chez les chrétiens, en particulier chez les catholiques, toutes les institutions missionnaires ont pour étendard Saint-Joseph. J'ai remarqué cela. Bon, ce qui me frappe, c'est qu'un des réseaux des yeshivas de diaspora anti-israéliennes s'appelle en France Or Joseph. Si au moins ils appelaient ça Or Yosef, okay, vous comprenez le problème. Bon, ça va jusque-là. Okay. En tout cas, pour revenir à notre question, et je connais l'origine d'ailleurs, okay, ça va chercher du côté de
Reclémer. Vous connaissez la Réforme, enfin, c'est la contre-réforme catholique qui est tellement antisémite, au fond, mais ça s'appelle aussi Saint-Joseph.
Maison. Oui. Voilà, et ma question était celle-là. Est-ce qu'il existe quelque part, dans la conscience chrétienne, une mémoire des origines?
Je crois que tout a été évoqué au moment de la conversation.
Oui, pardon, oui.
Je voulais dire qu'il y a une façon de clairer ça à la trace ou à la piste, c'est de voir qu'est-ce que l'Église persécute.
Je pense.
Ça peut être un signe. Alors, on ne retrouve pas ça dans une idée, mais il y a des morceaux à droite et
à gauche. Oui, non, je pense que c'est exploitable. Absolument. Oui, vous l'avez dit.
Je veux dire que c'était au moment de la condamnation et de l'évocation de la gnose qu'on a jeté tout, par toutes les traditions ésotériques, non sans certaines raisons, parce que la gnose, le gnosticisme était tellement entaché également de vues païennes ou idolâtres, qu'une église soucieuse de pureté a pu tout jeter à la fois. Mais je crois que tout l'ésotérisme est mort au IIIe siècle.
Écoutez, je vous proposais peut-être une ligne d'explication, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça ne vient pas du fait que le paulinisme, enfin je veux dire, que l'église de Paul a su, comment dire, vaincu,
a
dominé l'église de Pierre.
Oui.
Ça va aller dans ce sens-là. Et alors au fond, ce qu'on chercherait, c'est l'église de Jean.
C'est dans l'église de Jean qu'on trouve des traces.
Mais oui, mais où est cette église de Jean? Je l'ai cru, mais je cherchais. Vous savez, il y a quelques couvents orthodoxes en Israël. Nous sommes très amis, d'ailleurs, avec les Russes blancs, pas avec les Russes rouges. C'est vrai. Mais enfin, eh bien, quand on leur parle de cela, ils nous regardent avec des yeux intrigués. Pardon ?
Je connais un théologien grec qui est aux environs d'Athènes et qui prétend que.
Oui, j'entends bien. Il y a quelque chose formellement de très analogue entre le style chrétien orthodoxe et le judaïsme, c'est vrai. Mais ma question, c'est sur le contenu de cette mémoire. Qui avait-il à l'origine? Que voulaient faire les fondateurs du christianisme? Vous comprenez? Ce que j'essaie de vous restituer à travers les catégories du Midrash, mais que vous allez peut-être entendre par les gens du mythe eux-mêmes. Okay. Bon, alors on a fermé cette parenthèse. Et alors, j'aborde rapidement la question du Yetzer Hara, je ne sais pas combien de temps il me reste.
Je peux vous poser juste une question.
Oui.
Sur le sujet de Sarah, toutes les femmes n'étaient pas stériles en même temps que Sarah, puisqu'il y a eu Ismaël.
Rappelez-vous, écoutez, il faut lire les niveaux de lecture, chacun à son tour. Je vais essayer de vous expliquer. Rappelez-vous que lorsque Abraham, ayant fait cette grande découverte que sa femme était belle, il avait 100 ans et elle 90. Vous tenez cet élément. Et qui lui dit, pour le salut de mon âme, dis que tu es ma sœur. Il a découvert ça, sa femme c'est sa sœur. Bon. Et alors il arrive à la frontière, on en a parlé une fois.
Oui.
Oui, et si je me souviens bien comment ça s'est passé, il y avait le poste de douane, on lui a dit, vous avez quelque chose à déclarer? Il a dit, oui, j'ai une déclaration à faire. Ma femme c'est ma sœur. Ah, c'est ta sœur. Et alors, tout de suite, le verset dit que dans cette civilisation, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire que la femme, c'est la sœur, il y a stérilité absolue. Toutes les femmes sont devenues stériles. Et ce n'est que quand Abraham a prié et que Sarah a enfanté, que les Égyptiennes ont enfanté aussi. Oui, à ce moment-là, ça se passe. L'épisode Agar, c'est un autre épisode. Bien. Je crois qu'il me reste plus de temps, puisqu'il est une heure, je vais vous dire pourquoi. C'est pas grave, oui, on va enseigner notre foi. Vous savez, c'est pas grave, la Torah a été donnée il y a si longtemps, vous avez le temps, pas tout à la fois. Et un peu d'optimisme de la durée. J'ai une communication à faire, j'ai un rendez-vous téléphonique à une heure.